IDFM Radio, le média valdoisien.
On va parler de l'éducation nationale une nouvelle fois ce matin sur IDFM Radio. On va leur taper un petit peu sur les doigts ou pas avec notre invité du jour, Sylvain Bibas. Bonjour.
Bonjour et merci de m'accueillir.
De rien, avec plaisir, professeur des écoles.
Tout à fait.
Depuis oui.
40 ans, plus de 40 ans.
Déjà. Vous avez aussi à côté écrit des petites choses, notamment un recueil de poèmes mot pour mot.
C'est ça.
Où il y a un jeu de mots.
Il joue sur les mots, tout à fait.
Ouais. Il y a eu aussi, je crois, un autre ouvrage, je ne sais plus si c'est un roman ou une nouvelle.
On va dire une nouvelle. Humanotopie, oui.
Et puis là, dernièrement, vous éditez un essai qui s'appelle « Moi, ministre de l'Éducation nationale », trois petits points aux éditions Vérone. C'est quoi, pour repréciser, par rapport à un livre, un roman, un essai, puisque là, c'est un essai.
C'est un essai, oui. Mais j'avais envie de parler de l'école, ce qui me tient à cœur. Et puis, ça fait, voilà, comme je disais, ça fait plus de 40 ans maintenant que je suis dans l'éducation nationale. Et je vois qu'on s'enfonce, que le niveau baisse à tout point de vue. Et j'avais envie, au moins de si ce n'est de la sauver, l'école, au moins d'ouvrir le débat pour essayer d'apporter mes propositions, mes solutions pour sauver notre école de la République,
voilà,
qui nous est chère.
Voilà, c'est vos propositions, c'est pas une histoire, vous faites
le constat.
De toutes les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre carrière. Je le reprécise, hier nous étions avec des parents d'élèves qui en ont marre, qui depuis plusieurs mois n'ont pas de remplaçant pour leurs enfants, qui sont chahutés, qui vont d'une classe à une autre, c'est compliqué, hein. C'est pas nouveau, c'est depuis déjà quelques années que l'éducation nationale ne va pas bien.
Depuis 40 ans, moi je vois le niveau qui baisse dans tous les domaines, à tout point de vue. Et alors, au niveau des remplacements, je suis très bien placé pour en parler, puisque je suis remplaçant, titulaire remplaçant depuis presque aussi 40 ans, et donc je vois les choses qui se dégradent à tous les niveaux, quoi.
Mais puis de remplacer un remplaçant, c'est pas simple non plus.
Non.
En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Comment ça se fait que ça s'est dégradé depuis toutes ces années?
Je pense qu'il y a une certaine politique, de toute façon, à revoir. Mais je crois que le métier n'attire plus, tout simplement. On voit bien dans les concours, aujourd'hui, il n'y a plus assez de candidats. Les jeunes qui viennent, les PES, démissionnent en masse. Ils viennent voir et puis ils s'en vont parce que le métier n'attire plus. Les vacances, ça suffit plus. Le salaire n'est pas à la hauteur. On est les enseignants les moins bien payés d'Europe, il faut le savoir. Donc voilà, et puis les conditions de travail qui se dégradent, le niveau des élèves qui baisse, les parents à gérer maintenant, on se fait agresser, on se fait même malheureusement assassiner. Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses. Et donc je voulais au moins ouvrir le débat là-dessus parce qu'il y a, je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis moi ça me désole parce que j'ai pas envie de laisser des ruines derrière moi. J'ai encore 3 ans à faire. Je suis à 3 ans de la retraite. J'ai pas envie de partir et de laisser l'école dans cet état. Mes enfants sont à peu près, j'ai 61 ans, donc mes enfants sont à peu près tirés d'affaires.
Mais vous avez des petits enfants aussi. Vous êtes grand-père.
Voilà, je pense à mes petits enfants et à tous les enfants de France, tous les petits enfants, etc.
Il manque un nombre considérable d'enseignants, de toute façon.
Il faut revaloriser la profession, c'est évident.
Vous habitez Méry-sur-Oise depuis combien d'années ?
Depuis 2008, je sais plus là, ça fait quoi 2008, ça fait 16 ans,
c'est ça. Et vous avez jonglé d'école en école sur le Val-d'Oise, mais pas que.
Ouais, voilà, mon camp de base, moi je suis remplaçant sur une circonscription, sur la circonscription d'Aubonne, donc mon camp de base c'est Aubonne depuis le début. Et puis j'ai gravité parce que la circonscription a changé au fil des années, mais voilà, en gros je suis autour d'Aubonne, donc Soisy, Saint-Prix, Montlignon, enfin voilà quoi, je suis allé sur Montmorency, j'ai beaucoup bougé, et j'ai eu la chance l'année dernière d'aller sur un secteur un peu plus étendu, dont Garges, Sarcelles, en REP, ce qu'on appelle en REP, REP plus, c'est des zones d'éducation prioritaire, où là les effectifs, parce que je parle aussi des effectifs dans mon bouquin, on a des classes à 12 élèves, j'ai eu la chance de connaître ça l'année dernière, et sur Cergy aussi, par exemple, qui sont en REP ou REP plus. Et je peux dire que là, les conditions de travail sont
oui, c'est plus agréable, effectivement.
C'est plus agréable.
Vous préconisez éventuellement 20 élèves, mais 20, pas plus.
Voilà, 20 élèves, ça me paraît très bien. Ça me paraît. Mais par contre, il faut revaloriser la profession pour attirer des collègues, pour attirer des enseignants, pour que ça soit viable, évidemment.
Donc les parents d'élèves n'en peuvent plus. Les enseignants aussi sont à bout de souffle.
Bah oui,
on a l'impression que nous, en tant que parents, que finalement les profs, les maîtresses, c'est pas qu'ils ne font pas suffisamment leur travail, mais ils y arrivent plus parce que effectivement, il y a des moyens qui sont insuffisants. Quand je vois la classe de mon fils qui a 7 ans, ils sont presque 30.
Bien, beaucoup. Bien sûr.
Des enfants de 7 ans à gérer, ça a beaucoup d'énergie en plus.
Bien sûr.
C'est des CP, de les tenir en plus en classe, c'est pas toujours évident.
Non, c'est pas évident, je vous confirme.
Même pour les plus grands,
surtout quand on en a 30,
mais les CP qui passent les enfants qui passent de maternelle au CP, là, ça veut dire qu'il faut rester assis plus longtemps.
Tout à fait. Mais ça commence dès le recrutement. Hein. Nous, on a été recrutés, moi dans le temps, j'étais recruté après le bac à l'école normale. On avait une formation en 3 ans. Donc là, c'est le recrutement qui va plus. C'est la formation qui est inexistante maintenant. Voilà, même la
Vous vous formez entre vous, en fait. Hein.
Voilà, c'est ça. Dernièrement, si vous avez suivi, on recrute maintenant les enseignants sur des jobs dating. En 30 minutes, ils sont formés sur 2 jours avant la rentrée.
Et c'est même pas possible. Leur motivation, c'est leur passion à la base en plus. Hein.
Oui,
ils le font
évidemment.
Parce qu'ils trouvent un boulot.
Et c'est pour ça qu'ils démissionnent en masse, parce qu'ils voient que c'est trop dur et ils repartent ailleurs. Et ils ont raison. Moi, je plains les jeunes qui arrivent maintenant.
Donc aujourd'hui, tout le monde peut être maîtresse.
Oui. Je vous dis, job dating en 30 minutes, vous êtes recruté, parce que bientôt on va les faire signer dans la rue. Il manque tellement dans
Comment
enseignants.
Il faudrait faire pour attirer les jeunes? Parce que ça aussi, vous le dites dans votre essai, moi, ministre de l'Éducation nationale, renouveler les effectifs. On le voit dans l'éducation nationale, mais on le voit même chez les médecins.
Il y a un manque à l'hôpital,
considérable de médecins.
À l'hôpital, dans
la
police.
Et les jeunes n'ont plus du tout envie de s'investir dans ces métiers.
Non. Ben, je vous dis, quand on se fait agresser dans la rue, il y a un dessin humoristique qui passe sur les réseaux sociaux en ce moment, qui est très révélateur. C'est avant, on voit des parents qui vont voir leur enfant et qui lui demandent c'est quoi ses notes. Et aujourd'hui, les parents vont voir l'enseignant pour dire c'est quoi ses notes. Voilà, on s'en prend tout de suite à l'enseignant et c'est pas possible. Donc revaloriser la profession, ça passe pas seulement par le salaire, mais aussi par le salaire. Mais redonner le respect de cette profession, quoi, le respect des enseignants.
Qu'est-ce qu'on vous a appris, vous, les bases quand même,
parce
que vous avez fait l'école normale,
c'est ça,
d'instituteur de Cergy-Pontoise, c'était en 1983.
On était formé en 3 ans. On avait 3 ans pour se former. On travaillait en doublette avec des conseillers pédagogiques, on remplaçait des enseignants en stage. On avait 3 ans pour se former. Et c'était pas non plus la panacée encore. Hein. Donc moi j'ai appris le métier, il faut bien le dire, sur le tas. Hein, après, mais au moins on avait 3 ans pour se préparer, pour se former. Et on était payé. On avait une formation payée. À cette époque-là, on avait le droit au logement, on avait un logement de fonction, on avait des tas d'avantages qu'on a perdu maintenant. La retraite à 55 ans, c'est terminé. Moi, je vais partir dans 3 ans à 64 ans. Ben voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on a dévalorisé au fur et à mesure cette profession. Et voilà où on en arrive, et ça craque de partout, ça s'effondre. On est en train d'assister à l'effondrement de notre école, de notre système éducatif qui est loué dans le monde entier. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit livre, en reprenant la fameuse formule de François Hollande, moi, ministre de l'Éducation nationale, pour ouvrir le débat et pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé encore. Quoi.
Et on choisit pas aussi forcément pour vous les bons ministres pour s'occuper de ça. Et depuis quelques années, on le voit aussi, hein, les ministres de l'Éducation changent constamment. Il y a des bêtises qui sont faites.
Quand on a eu la réforme des rythmes scolaires, effectivement, là, c'était du grand n'importe quoi. Là, j'ai dit c'est pas possible. Bon, là maintenant, Madame Belloubet, je lui fais confiance. Moi, je lui ai adressé mon bouquin, elle m'a gentiment répondu.
Elle m'a répondu.
Oui.
C'est top.
Donc voilà, en me disant qu'elle prenait en compte mes propositions. Donc voilà, quelque part ça fait plaisir et je pense qu'elle est consciente du travail. Mais il y a il y a tellement de travail, tellement de choses à faire, quoi.
C'est un appel aussi au gouvernement, finalement.
Ah oui, oui, bah, bien sûr.
La politique, ça vous a toujours intéressé. Pourquoi pas, oui, vous, ministre de l'Éducation nationale, comme vous le citez en couverture de votre essai?
Modestement, j'apporte juste mes propositions, mes solutions. Voilà. S'il y en a une qui peut être reprise, bah, ça sera déjà pas mal. Hein, que ça soit les effectifs, le recrutement.
Mais un professeur des écoles, ministre de l'Éducation nationale, ce serait pas logique?
Si, ça serait logique. Si, si, tout à fait, oui. Alors moi, je m'occupe que de l'école, hein. Ça serait que du primaire, hein. Je m'occuperai pas du secondaire. C'est pas mon domaine. Mais pourquoi pas? Ils vont au moins être, modestement conseillés. Voilà. C'est ce que j'ai voulu faire. Voilà.
Vous avez parlé des agressions au sein des écoles, oui, mais il y a aussi les téléphones portables, les tablettes.
Les écrans,
les écrans. C'est pas forcément évident pour vous à gérer. Il y a certains profs qui interdisent des établissements qui interdisent, qui donnent une enveloppe à l'entrée de l'école et puis on redonne ce portable en fin de journée.
Et même à l'école élémentaire, on commence à voir des enfants qui ont des portables à 9, 10 ans. Oui. Et les écrans.
C'est rassurant pour les parents en quelque sorte.
Mais c'est quand même une catastrophe. Les écrans, il faut bien le dire. On en revient. Il y a certains pays, je crois que c'est la Suède, qui a banni les écrans de l'école. Parce que nous, on s'est empressé d'en rajouter à l'école. Alors, il y a des points positifs, mais franchement, c'est une catastrophe, les écrans. Moi, je vois ma génération. On a appris avec le tableau noir et puis les manuels. Et on était bien meilleurs que les enfants maintenant. Donc, non, il faut stop les écrans, stop. Franchement, c'est pitié, là, je m'adresse aux parents. Avant, j'ai entendu une proposition, je crois que ça vient du gouvernement. Pas d'écran pour les mineurs. Tu vois que ça commencerait à 18 ans. Je trouve que ça serait pas mal, ouais.
On va se retrouver dans un instant. Nous sommes toujours avec Sylvain Bibas, auteur de Moi, ministre de l'Éducation nationale aux éditions Véron. Cet essai est sorti quand exactement?
Il y a eu un an.
Disponible auprès de libraires ici,
tout
dans le
fait.
Coin ou pas?
Oui, les bons tous les bons libraires, tous les bons sites. Oui, je ne veux pas faire de pub, mais...
Je rappelle que vous habitez Mairie-sur-Oise et vous êtes toujours en activité, professeur des écoles. Oui. On parlera un petit peu plus de vos différentes solutions, propositions, à chaque chapitre son domaine aussi, à travers moi, ministre de l'Éducation nationale. Au total, c'est 17 propositions.
Hein. C'est ça.
Il pourrait y en avoir encore plus, mais c'est déjà pas mal. Hein. 17 premiers points à voir, à éclaircir pour que nos enfants soient mieux lotis au sein de leur établissement scolaire. Il est 8h27 sur IDFM Radio. La circulation, l'actualité proche de chez vous et maintenant la musique avec Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December.
Thinking about my baby, it don't matter if you're black or white.
Causing grief in human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Hey, hey.
le tout début des années 90 avec Michael Jackson, Black or White. Et ce matin, nous sommes avec votre nouveau ministre de l'Éducation nationale du Val d'Oise. Je plaisante bien évidemment, c'est Sylvain Bibas, avec le titre de votre essai qui est disponible depuis environ un an aux éditions Vérone, où vous faites 17 propositions. Moi, ministre de l'Éducation nationale, un titre voilà pour réfléchir et réagir.
La fameuse formule, voilà, moi président, donc moi ministre de l'Éducation nationale.
Et d'où vous vient cette idée d'écrire cet essai? Je le reprécise, vous êtes professeur des écoles.
Bah oui,
vous avez attendu longtemps avant de trouver les bonnes propositions pour éditer cet essai.
Parce que je vois la situation qui s'effondre de l'intérieur et donc voilà, j'avais envie d'apporter mes solutions pour essayer de sauver ce qui peut l'être et voilà quoi. Ça me paraissait le bon moment maintenant parce que là on arrive vraiment à un stade où, comme vous le disiez, on n'arrive plus à remplacer les malades, on n'arrive plus à enseigner correctement et voilà quoi.
Donc c'est une catastrophe.
C'est une catastrophe annoncée. Oui. Si on fait rien là maintenant, c'est une catastrophe annoncée. Oui. Moi je vois l'école s'effondrer depuis 40 ans petit à petit et c'est une catastrophe annoncée. Oui, ça craque de partout. Là on est en train de craquer.
Vous nous l'avez dit, hein, vous l'avez envoyé justement à la ministre. Hein,
oui, tout à fait.
Elle l'a lu, elle vous a répondu.
Tout à fait, elle a pris en compte mes propositions.
Ce sera peut-être exposé prochainement à l'Assemblée.
J'espère. Si au moins une de mes propositions pouvait être retenue, ça serait déjà pas mal. Et puis au moins ouvrir le débat. Moi, ce que je voulais, c'était ouvrir le débat sur l'école parce que, comme je vous dis, ça s'effondre, ça craque de partout.
Nous, en tant que parents, l'éducation de nos enfants, mais vous aussi, bien évidemment, et il vous faut plus de moyens, il vous faut des aides. Des fois, on entend des parents, d'élèves qui se plaignent aussi des instituteurs et des professeurs. Mais comme on l'a dit, les enfants sont 30 à 35 dans une classe, comment voulez-vous que le professeur qui est seul à gérer tous ces élèves? Vous demandez éventuellement, dans vos propositions, ce serait cool, peut-être, deux enseignants?
Oui, pourquoi pas. Mais déjà dédoubler les effectifs, comme je vous le disais en REP ou REP+, déjà 12 élèves par classe, déjà c'est l'idéal. Après, évidemment, l'idéal c'est de doubler les enseignants. Ouais, deux enseignants par classe, il me semble que ça se fait dans des pays scandinaves et c'est évidemment génial, quoi.
Ouais, et des enseignants aussi spécialisés, des auxiliaires de vie.
Alors, parce que pour inclure ces
enfants qui ont un handicap, qui ont difficultés sont pas suffisamment encore aujourd'hui soutenus.
Il nous faut des AESH bien sûr pour les enfants handicapés, bien sûr, parce qu'il faut les inclure, mais pas sans moyens, pas sans formation, et il faut des AESH bien sûr pour chaque enfant handicapé. Oui, on en a besoin bien sûr,
et surtout former aujourd'hui davantage les professeurs pas les recruter comme ça à la va-vite et les jeter dans une cage aux lions.
Je vous dis, deux jours de formation, pour un petit jeune que j'ai rencontré l'année dernière, qui a été recruté comme ça, et deux jours de formation, et on le balance sur les classes, et c'est pas possible, on peut pas mettre n'importe qui devant les élèves, et sans formation, c'est un métier qui s'apprend. Moi, je préconise un vrai apprentissage, comme un métier manuel, c'est-à-dire qu'on apprend sur le tas avec quelqu'un d'expérimenté. Et on apprend son métier pendant un an, on fait son apprentissage. Voilà, c'est ce qu'on faisait un petit peu nous avant avec les conseillers pédagogiques qui venaient nous visiter dans les classes, et on pouvait travailler en doublette aussi avec des enseignants spécialisés et former un véritable apprentissage.
Oui, parce qu'une classe
c'est
de
un métier
CP
qui s'apprend.
Et de CM1, ça se gère pas non plus de la même façon.
Ouais, voilà, c'est un métier qui s'apprend, ça s'improvise pas enseignant.
Et puis il peut y avoir aussi des aléas, des petites difficultés, des psychologues, c'est possible pour vous dans certains établissements, ou des personnes qui sont là pour aider en tout cas les enseignants par rapport à telle ou telle situation.
Bon, on avait de la médecine scolaire, on avait des psychologues et tout ça, ça a disparu petit à petit aussi.
La médecine scolaire, pourquoi? Ça coûtait trop cher, ça servait pas grand chose finalement.
Certainement, les médecins au fur et à mesure n'ont pas été remplacés, récupéraient des secteurs énormes, et puis il n'y en a plus. On avait des infirmières, on avait des secrétaires médicales, on a plus rien, on n'a plus de suivi médical à l'école. Moi, je vous parle d'un temps dans les années 60, j'ai été vacciné à l'école. Voilà, c'était le... Mince, je me rappelle plus du... Le BCG, c'était le BCG. Mais j'étais vacciné à l'école, voilà. Mais c'est terminé tout ça, il n'y a plus de suivi, il n'y a plus rien.
Les enfants, en plus, ont besoin de se confier à une personne éventuellement autre que la maîtresse ou leur professeur. Même les familles, et du coup il n'y a pas d'accueil non plus pour les parents d'élèves et bien évidemment pour les professeurs, pour les instituteurs.
De moins en moins, on va dire, puis on a de moins en moins de temps pour ça aussi, et malheureusement, et voilà, ça, parce que je vous dis, ça craque de partout, quoi. Ouais.
Donc des propositions 17 au total, revoir les conditions de travail, les moyens, la formation,
le recrutement aussi, voilà, les effectifs bien sûr, et puis revenir aux bases de l'école, c'est-à-dire l'instruction, qu'on redonne à l'école les moyens d'instruire, et puis revenir aux bases, lire, écrire, compter, parler, voilà, parce qu'on en demande de plus en plus à l'école et on se disperse, on perd du temps, de l'énergie à faire des choses autre que de l'instruction, et ça serait bien qu'on puisse y revenir. Et je voudrais simplement, si on a le temps, juste citer Victor Hugo, voilà, tout simplement, le grand Victor Hugo, qui disait « L'éducation, c'est la famille qui la donne, l'instruction, c'est l'État qui la doit ». Voilà. Donc, si on pouvait redonner sa mission première à l'école, déjà d'instruire, ça serait déjà pas mal.
Des citations que vous citez auprès de vos élèves, par exemple ?
Peut-être pas au niveau des élèves, mais j'aimerais bien lancer un appel aux parents, quoi, qui se déchargent de plus en plus sur l'école, et c'est vrai qu'ils ont un devoir d'éducation à la maison, quoi. Voilà. Qu'on travaille en partenariat vraiment, et pas que ça soit pas la guerre entre les parents et les enseignants.
Voilà. Vous, tout ce que vous proposez dans cet essai, vous avez plus ou moins appliqué ça?
Oui, j'essaye en tant que remplaçant, j'essaye, au moins de remplir ma modeste mission de remplacement, quoi.
Voilà. Vos collègues sont au courant, ils ont emprunté
oui, certains collègues, et d'ailleurs je fais un petit coucou à mes ex-collègues de l'école normale, le G2 qui se reconnaîtra, voilà, qui m'écoute peut-être en ce moment. Voilà.
Aujourd'hui, pas d'école pour vous, c'est mercredi.
Non, c'est mercredi, mais dès demain, je retourne faire mes petits remplacements, voilà.
Mais le mercredi, vous préparez quand même vos cours.
Bien sûr.
Vous corrigez des copies.
Des corrections, des préparations, oui, bien sûr. Oui. Pour ça qu'on dépasse largement le cadre des 27 heures, qui n'est pas d'ailleurs 27 heures, parce que je le détaille aussi dans le bouquin, qui est un petit peu plus, parce qu'on accueille les enfants dès 8h20 et dès 13h20, mais bon, ça c'est un petit détail. Mais voilà, oui, on dépasse largement le cadre des 27 heures, oui.
Et on a l'impression aussi qu'aujourd'hui, vous avez un petit peu moins votre place, parce que je l'ai vu aussi, je le constate, si un élève doit passer d'une classe à une autre, aujourd'hui on demande beaucoup l'avis aux parents.
Oui, bien sûr.
C'est le parent qui décide si son élève doit passer en classe supérieure. Avant, ça se passait pas trop comme ça.
Non, il y avait les redoublements, les fameux redoublements étaient décidés par l'équipe éducative. Et maintenant, les parents. Bon, ce qui est pas plus mal, il faut impliquer aussi les parents. Moi je suis pour, hein. Mais mais qu'on écoute les professionnels que sont les enseignants, quoi.
Bon, ça existe toujours quand même, les réunions entre les profs et les parents.
Oui, bien sûr.
Vous organisez ça régulièrement.
En chaque début d'année, il y a la réunion parents-prof. On peut demander un rendez-vous n'importe quand. On reste encore disponible, bien sûr, pour les parents. Évidemment, je vous dis, c'est un partenariat. Il faut qu'on travaille main dans la main.
C'est vrai, vous comptez pas vos heures. Vous venez aussi des fois le week-end.
Ah oui.
Vous organisez aussi. Il peut y avoir une kermesse. Il peut y avoir une fête spécifique. Là, il y a les Jeux Olympiques. Donc.
Et je vous parle même pas des directeurs et directrices, parce que alors là, c'est. Moi, mon ex-femme est toujours directrice. Elle revenait à l'école le samedi, même le dimanche, le mercredi, pendant les vacances. Donc, c'est un travail de fou.
Revaloriser aussi différents métiers, hein, d'instituteur, de proviseur, parce que par moment vous êtes disponible tout le temps. Aujourd'hui, on parlait des réseaux sociaux où même des fois il y a des comment on appelle ça, on peut échanger aussi même en soirée,
des
forums,
des groupes
avec
WhatsApp.
Des groupes WhatsApp. Et là, les instituteurs sont à fond. Hein.
Ah oui. Ben, on demande d'ailleurs le droit à la déconnexion, un petit peu comme tout le monde d'ailleurs, parce que sinon c'est infernal.
C'est infernal.
Ah ben
vous arrêtez.
C'est 24/24. Sans parler des classes de découverte, où là c'est 24/24. Et évidemment, on le fait de bon cœur, mais voilà, quoi. C'est du travail, et qui n'est pas souvent reconnu à sa juste valeur.
Bon, le gouvernement vous entend. Ils essayent de trouver des solutions.
En tout cas, la ministre m'a répondu.
Mais eux,
je la remercie.
Ils doivent être dépassés aussi.
Bien sûr, oui, bien sûr, oui. Mais il faut justement, il faut remettre une politique en marche pour sauver l'école de la République, qui, je vous dis, est louée dans le monde entier, quoi. On a pratiquement le meilleur système éducatif, quoi. La maternelle est reconnue dans le monde entier, la maternelle française. Donc il faut absolument sauver tout ça. Ah oui.
Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui, Sylvain Bibas, auteur valdoisien de Méry-sur-Oise. Ouais. Votre essai est disponible partout de chez partout. Ouais. Il s'appelle « Moi, ministre de l'Éducation nationale » aux éditions Vérone, avec différentes propositions. L'école, l'éducation nationale en danger. Et on en a encore parlé ce matin sur votre radio valdoisienne. Bon retour.
Merci,
belle journée à vous.
Merci beaucoup.
Le soleil est là.
Merci de m'avoir accueilli ce matin. Et puis, j'aurais juste dédié cette émission à mon ami Jean Villot, un ex-collègue qui s'est suicidé, un collègue d'Aubonne. Voilà, merci beaucoup.
Merci
à vous. Bonne journée à vous.
La matinale maintenant avec Maître Gims. Ou Gims. Mais à l'époque, c'était Gims pour ce tube changé.
Mon ami, mon avenir, ma vie, pardonne-moi ce visage inexpressif, rempli de tristesse.